Amen. Alors, dis à ton voisin, il y a quelqu'un derrière toi. Dis-lui, il y a quelqu'un derrière toi. Dis-lui, il y a quelqu'un derrière toi. Voilà. Est-ce que vous voyez qui est derrière vous? Même Jonathan qui est là-bas, vous voyez? Il est assis au fond. On a l'impression qu'il n'y a personne derrière lui. Mais en fait, il y a quelqu'un derrière lui. Il y a quelqu'un derrière toi. Quand tu marches, quel que soit ce que tu fais, il y a quelqu'un derrière toi. En fait, tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un derrière nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que nous faisons dans la vie, on est poussé par quelqu'un à le faire. Tu n'es pas libre de ce que tu fais. Tu n'es peut-être pas conscient, mais il y a quelqu'un derrière toutes tes œuvres, toutes tes actions, il y a quelqu'un derrière. Alléluia. Soit c'est quelqu'un qui te veut du bien, soit c'est quelqu'un qui te veut du mal. Mais il y a toujours quelqu'un derrière toi. Et quand on perd cette notion, finalement, on pense que tout ce qu'on fait, on le fait de nous-mêmes. Et donc, on fait des œuvres, on fait des projets, on se dit, on le fait de nous-mêmes. Et puis, parfois, on se retrouve dans des situations compliquées, difficiles, et on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui nous a attirés vers cette situation compliquée et difficile. On ne se rend pas compte qu'en fait, on a été sous l'influence de quelqu'un, mais on ne s'est pas rendu compte. Il y a toujours quelqu'un derrière nous. Soit c'est Dieu qui est derrière nous et qui nous pousse à faire de bonnes œuvres, soit ce n'est pas Dieu. Mais il y a toujours quelqu'un. Tu n'es pas libre de ce que tu fais. Et parfois, on a l'impression qu'on est libre. Alors on s'est dit, oh, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Même nos pensées sont influencées. Mais tu ne le vois pas, celui qui t'influence. Tu as l'impression que tu es maître de ce que tu fais. Maître de tes pensées, maître de tes décisions. Mais il y a toujours quelqu'un derrière toi. Jésus-Christ est venu à quitter le trône de gloire, est venu sur terre, afin que cette personne qui est derrière nous ne soit plus le seul à être derrière nous. Afin que lui aussi, Jésus-Christ, en l'acceptant, nous avons accepté qu'il soit aussi derrière nous et qu'il soit maintenant celui, le seul, qui soit capable d'être derrière nous. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur en disant, voilà Seigneur, on refuse celui qui était derrière nous avant que tu ne viennes. Maintenant, on veut que ce soit toi qui sois derrière nous. C'est cela aussi l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Quand on chante, Seigneur, je veux te suivre, c'est parce qu'on a décidé de ne plus suivre quelqu'un d'autre. Mais il y a toujours quelqu'un derrière nous. Et même ce quelqu'un-là, malgré qu'on se soit donné à Jésus, il n'a pas renoncé. Il est toujours là, dans les ruses, derrière nous, afin de nous influencer dans nos actions, dans nos pensées, dans nos œuvres, dans nos projets. Il est toujours là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois ennemis que nous avons en tant que chrétiens. De trois influences qui sont toujours derrière nous. Certainement, vous les connaissez, mais on perd toujours cette notion qu'en fait, il faut que je fasse attention parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière moi. Que je fasse attention de mes décisions, de mes choix. Et que même quand je fais quelque chose qui n'était pas bien devant Dieu, j'ai l'impression que c'est moi qui ai pris la décision. Mais en fait, non, j'ai été influencé. Mais je ne me suis pas rendu compte. C'est pourquoi la Bible parle des ruses. Il y a des ruses. Une ruse, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient. Une ruse est une action, une activité qui a été à notre encontre, mais dont on ne s'est pas rendu compte. quelqu'un a rusé. Et finalement, t'es amené à faire une œuvre que tu n'avais pas pensé faire. La Bible dit, c'est afin que nous ne soyons pas capables nous-mêmes de faire des bonnes œuvres. On n'est capable d'aucune bonne œuvre. Mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire des bonnes œuvres. La dernière fois, Alexis a parlé que, voilà, Dieu a été racheté. Dieu a été transporté. Nous sommes maintenant assis avec Dieu. Mais parle de l'ancienne manière de vivre que nous avions hérité de ce monde. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous marchons, lorsque nous faisons le projet, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous avons des pensées, des comportements, des caractères qui ressurgissent, une situation ou dans une autre, il y a toujours une personne qui nous a influencés. Je dis bien une personne. Soit c'est le Saint-Esprit, soit ce n'est pas le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas lui qui nous influence, on est donc influencé par quelqu'un d'autre. On lit quelques passages. Matthieu 12. Rapidement, j'ai prévu beaucoup de versets, mais je pense qu'on ne va pas les lire vu l'heure. Matthieu 12, 28, 22 à 28. On va lire rapidement. Matthieu 12. Matthieu 12, c'est ça, 22 à 28. Celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Continuons. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David ? En parlant de Jésus. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Première chose, royaume de Satan. Continuons. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Deuxième royaume. Nous avons ici deux royaumes que Jésus-Christ présente clairement. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. Ça veut dire que quand on ne marche pas selon le royaume de Dieu, on marche forcément selon le royaume du diable. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois autres, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que deux. Soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu. Que nous soyons conscients ou pas de ce que nous faisons soit est pour le Seigneur, soit est contre le Seigneur. Et lorsqu'on n'est pas conscient de ça, on a l'impression que, bon voilà, on prend nos décisions tout seul, on vit tout seul, on fait ce qu'on a à faire, après on dit, oh, Seigneur, pardon, je fais ceci. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui nous tire vers le bas, à chaque fois. Et que si on ne fait pas attention, on va se retrouver à terre, loin de la présence de Dieu. Continuons. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc qui nous a délivrés du royaume des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Donc toutes nos œuvres doivent être les œuvres de la lumière. Les œuvres du royaume de Dieu. Quand une œuvre n'est pas du royaume de Dieu, et on peut le lire dans l'épître de 1 Jean, elle est du royaume des ténèbres. Il n'y en a pas un troisième royaume. Soit elle est de la lumière, soit elle est de ténèbres. Toute œuvre que nous faisons est divisée en deux, ténèbres et lumière. Donc, comme moi, Wilfried, je fais une œuvre qui n'est pas de la lumière, elle est forcément des ténèbres. Et si elle est des ténèbres, c'est qu'elle a été forcément inspirée par le prince des ténèbres. Et que je me suis laissé avoir. Je dis, ah, Seigneur, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été attentif. Je me suis laissé avoir. Vous savez, moi, ça m'arrive, hein. Et parfois, je dis ça au Seigneur, je dis, ah, Seigneur, je me suis laissé avoir, ce n'est pas vrai. Tu succombes à quelque chose, tu penses que, bon, j'ai eu un désir, voilà. Non, tu es influencé. Et les yeux ouverts. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, on est là dans cette salle, et je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un derrière toi. Mais en fait, il y a quelqu'un derrière toi, il y a quelqu'un devant toi, il y a quelqu'un au-dessus de toi. Ils sont partout. Nous ne les voyons pas. Le Saint-Esprit est là. Tu sors, tu marches, tu vois partout. Il y a d'autres esprits qui sont aussi là. Quand tu n'es pas conscient que tu vis dans un monde à trois dimensions, qui est aussi spirituel, tu te laisses influencer et tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui murmure à ton oreille, qu'il y a quelqu'un qui te pousse à faire des œuvres, qui te loigne de Dieu, comme il poussa Ève à pécher. Et ainsi, Christ, le Seigneur, vint pour nous redonner cette vie que nous avions en Dieu avant que le diable devienne séduire même. C'est pourquoi Jésus nous a donné, et on en parle dans l'Église, mais c'est pour cette raison que Jésus a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour sauver les âmes, mais c'est aussi pour toi, pour te garder, le chasser lorsqu'il vient à toi, le résister, lorsque sa pensée t'influence. C'est aussi pour te garder que Dieu t'a donné l'autorité de dire non, je le refuse au nom de Jésus. Je refuse cette pensée. Je refuse cette œuvre. Tu prends autorité parce que tu sais de qui cette pensée vient. Tu sais de qui cette œuvre est inspirée. Elle n'est pas de Dieu. Et tout de suite, tu as les yeux qui s'ouvrent. Et tu sais devant qui tu fais face. Et donc, tu sais quel comportement adopter. Tenté par des femmes, tu sais quel comportement adopter. Tu sais que le diable est derrière ça. Il use de la séduction de ce monde pour me tenter. Il use des pièges pour me tenter, pour m'avoir. Mais moi, je resterai vigilant. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, tu es au courant, tu sais. Non, c'est une ruse. Tu ne le vois pas venir comme un serpent. Dans le jardin d'Éden, il se déplace. Mais tu ne le vois pas venir. Tu te rends compte que quand tu es tombé, c'est tout. Alors tu sais te laisser avoir. Mais avant, quelqu'un disait que le diable est plus intelligent que ce que vous pensez. Il est dès le commencement. Il était dans les cieux. Il a vu la gloire de Dieu. Il connaît les anges. Il a été parmi eux. Il sait comment faire chuter un homme. Il n'y a qu'en Christ Jésus qu'on peut résister au diable et contre ses ruses. Parce qu'en tant qu'homme, tu ne connais pas l'intelligence du malin. La Bible déclare qu'il est même capable de se transformer en ange de lumière. Quelle intelligence! De Timothée 2, 1 à 4. De Timothée 2, 1 à 4. Je veux éveiller notre conscience sur les forces qui agissent au-dessus de nous et on ne se rend pas compte. Sur la guerre des âmes qu'il y a, ton âme est toujours dans la guerre parce que le diable veut quand même te ramener vers lui. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi et en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Continuons. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes dans une bataille et nous sommes dans une armée. Qui dit bataille dit armée. Et Dieu nous a enrôlés dans son armée. Nous sommes les soldats de Christ, nous le chantons ici. On chante un chant qui dit, si je me souviens bien, il y a puissance dans le sang de Jésus, il y a une armée qui s'élève. Mais c'est nous l'armée de Jésus, qu'est-ce qui s'élève? Vous croyez qu'une armée fait quoi? Elle combat. Elle combat contre qui? Mais des ennemis, des adversaires. Elle ne combat pas pour avoir une maison, elle ne combat pas pour avoir un champ, pour avoir un travail. Non, ça c'est le show de la vie. Mais le vrai combat, il est spirituel. Le vrai combat, il est au-dessus d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir une femme et des enfants. Il y a un véritable combat. Et toutes ces choses que nous cherchons et qui sont nécessaires à cette vie, à cette terre, nous les laisserons lorsque le temps sera venu. Mais le vrai combat, est-ce que nous le menons? Est-ce que chaque jour, nous avons la victoire sur le véritable combat? Celui de notre foi, celui de notre cœur, de notre espérance, celui de la vie éternelle, celui où je dois tenir ferme, celui où je ne dois pas me laisser balloter par des doctrines diverses, celui où je dois me préserver pur afin de ne pas donner accès au diable dans ma vie. Vous savez, le péché donne accès au diable. Accès. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas accès parce que tu es enfant de Dieu. Et ta vie est cachée en Jésus-Christ, ton Dieu. Mais lorsque tu pèches, tu ouvres une porte et le diable rentre. La Bible parle, ne donnez pas accès au diable. Mais en temps normal, il n'a pas d'accès en toi. Jésus a dit, il n'y a rien de lui en moi. Et il faut que nous soyons capables de dire, il n'a rien de lui en moi. Le diable n'a rien de lui en moi. Que va-t-il me dire? Je marche selon Dieu. Je pratique la justice. Je pratique la sainteté. Que va-t-il me dire? Va-t-il m'accuser devant Dieu? Le sang de Jésus m'a déjà lavé de tous mes péchés. Et depuis, je marche droitement. Et si je suis tombé, oh Seigneur, pardonne-moi, car ta parole dit que si je pèche, Dieu est fidèle et juste de me pardonner et me purifier de toute iniquité. Alors je me relève et je marche. Mais rien me fera demeurer dans l'iniquité. Parce que mon Dieu me relèvera et je marcherai encore. Je ferai attention un peu plus la prochaine fois. Ésaïe 54, le verset 15 au 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu ne peut rien faire de mal dans ta vie. Et il dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, je t'aime tellement. Tu es la prunelle de mes yeux, j'ai donné ma vie pour toi, mon sang pour toi. Alors s'il y a des complots, alors ça ne va pas dans ta vie, cela ne viendra pas de moi. Si tu as des problèmes, cela ne viendra pas de moi. Il y a un ennemi qui te cherche, mais ce n'est pas moi. Je suis ton Dieu, je t'aime. Je ne peux te faire de mal. Alors si l'on forme des complots, cela ne sera pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, oh, voici comment il te donne l'autorité. Il te parle du diable, il te parle du monde, il te parle de la chair. Il te dit, tous ceux qui se ligueront contre toi, je te donne le pouvoir. Ils tomberont sous ton pouvoir. Tu as la capacité de résister. Tu as la capacité de vaincre. Parce que tu es enfant de Dieu. Et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Continuons. Voici, dit le Seigneur, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Il parle de l'ennemi, il parle de l'adversaire. Il dit, c'est lui qui l'a créé. Il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Des armes dont il parlait tout à l'heure, qui seront forgées contre toi. Il dit que c'est lui qui les a créées. C'est lui qui a créé l'ouvrier, le Seigneur lui-même. Après, il dit, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et c'est toi le destructeur qui est capable de briser les armes du diable. Capable de briser toute arme forgée contre toi. Capable de briser tout complot contre toi. Il dit, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il te donne le pouvoir et l'autorité. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il ne parle pas de serviteurs en tant que pasteur, prophète. Non, il parle de tout enfant de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est un héritage que Dieu nous a donné, l'autorité. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous donne le pouvoir et l'autorité. Le salut face à nos adversaires, face à nos ennemis, face aux tentateurs, face à celui qui nous influence, il nous donne le pouvoir et l'autorité. Je vais vous parler de trois adversaires, rapidement. Je vais vous parler de la chair, notre premier adversaire, je vais vous parler du monde, qui est notre deuxième adversaire, et je vais vous parler du diable, qui est notre troisième adversaire. Quand nous marchons chaque jour, nous ne sommes pas déséquilibrés. C'est-à-dire que nous ne faisons pas un combat spirituel où il n'y a que le diable que nous voyons. Le diable, le diable, le diable, le diable. Oui, c'est un ennemi, et il faut le combattre. Il n'y a pas que le diable. Le monde aussi dans lequel nous vivons est contre les enfants de Dieu. On verra les versets. La chair que nous portons est contre le succès des enfants de Dieu. Et si tu ne combats qu'un seul combat, tu es déséquilibré. Si ton combat n'est que contre la chair, c'est-à-dire, et on verra tout à l'heure, contre ton ancienne nature, contre le péché, contre ce que tu faisais avant, sans combattre le diable, tu es déséquilibré. Le combat est aussi par rapport à ce monde, par rapport à l'influence de ce monde, par rapport aux habitudes de ce monde. Pas parce que le monde nous propose. Pas pour le désir d'être riche. Pas pour le désir de se lever au milieu des hommes. Tout ça, c'est le monde qui nous attire. Et qu'on est déséquilibré et qu'on ne combat pas sur ces trois fronts, on donne accès à l'ennemi dans nos vies. Romains 8, 5 à 8. Non pas de la chair. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alors, est-ce que c'est le 8, 5 à 8? J'ai donné plusieurs passages de Romains. Le 5 à 8. Celui-là? Ok. Ceux en effet qui vivent, merci beaucoup. Ceux en effet qui vivent. Voilà, merci, c'est celui-là plutôt. Parfait. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Continue. C'était le 5 à 8. 5 à 8, c'est bon? Ok, continuons alors. Romains 5 à 8. Or, ceux qui vivent sont la chair ne saurait plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vis selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Continuons. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est que la chair ne peut se soumettre à la volonté de Dieu. Quels que soient les efforts que nous pouvons faire, notre chair, ça veut dire nos désirs, nos passions, nos envies, elles ne peuvent faire la volonté de Dieu. C'est bon? Passons au prochain verset alors, merci. Ok. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça ne lui appartient pas. Alors, je ne pense pas t'avoir donné ce verset. Mais ce n'est pas grave. Prends-nous 1 Pierre 2,11, s'il te plaît. 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre contre deux royaumes. Elles font la guerre à ton âme, les convoitises charnelles. Nous sommes dans une guerre. Les désirs charnels, comme on aime dire en ce moment, le péché mignon, mais ils font la guerre à ton âme. Oh, j'ai un peu succombé, bon, demain je ferai mieux. C'est une guerre, tu ne perds une bataille. Tu ne t'es pas rendu compte. Tu viens de perdre une bataille. Éveillons nos sens à ce qui se passe. En nous et autour de nous. Ce que nous ne voyons pas, mais qui existe. Ce que nous ne comprenons pas, mais qui sont bien réels. Mais qui agissent dans nos vies. Soit pour nous, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, qui sont bien réels, qui sont bien autour de nous. Pendant qu'on se parle là ce matin, il y a des anges de Dieu autour de nous. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Soyons conscients de la présence angélique. Et soyons conscients de la présence de l'Esprit de Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. Pourquoi? Pour nous éviter de tomber et de chuter. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a rachetés. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Continuons. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, elles font la guerre à l'âme. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là dans les temps de la grâce. Nous ne parlons pas du temps de l'Ancien Testament, on était sous la loi. On est bien dans le Nouveau Testament. Donc ces choses sont importantes parce qu'elles nous font la guerre. Et si elles gagnent la bataille, nous sommes perdants. Parce qu'il le dit clairement, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une fumisterie, ce n'est pas un songe, ce n'est pas quelque chose dont on va débattre, la Bible est claire. Je vous l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et quand je lis ça, je dis, Seigneur, quand j'en commets un, pardonne-moi. Il faut vite que je me ressaisisse. Parce que je veux hériter le royaume de Dieu. Romains 8, 11 à 10, mais je pense qu'on l'a déjà lu tout à l'heure, c'est l'un des passages que tu avais déjà passé. Voilà. Et c'est Christ est en vous. Le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Continuons. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, donc nous qui avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et il dit, si cet esprit-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit capable de nous faire triompher contre la chair et contre ses manigances. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et nous devons être donc remplis de lui pour obtenir de lui la capacité de lutter, de tenir ferme et d'être victorieux face aux désirs de la chair. Un Corinthiens 9, 24 à 27. Un Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? On parle de nous, chrétiens, qui courons pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, la vie éternelle. Il dit ici, courez de manière à le remporter. Continuons. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous qui courons pour une couronne incorruptible, nous qui courons vers la vie éternelle, faisons-le. Reviens s'il te plaît. Merci. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Continuons. Moi donc, il parle de lui. Apôtre Paul, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait, il sait contre quoi il combat, et ce qu'il fait n'est pas par hasard, mais ce qu'il prend, ce n'est pas par hasard, non, ce n'est pas un aventurier, il sait ce qu'il fait dans le Seigneur, il sait comment lutter contre les choses, contre ses ennemis, ses adversaires, il sait ce qu'il faut faire et il le fait. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Continuons. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, c'est-à-dire qu'il tient son corps en esclavage. S'il a une pensée qui arrive comme ça, la charnelle, il dit non, je refuse. S'il a une convoitise de la chair, il dit non. Il tient son corps assujetti. Esclave pour Christ. Son corps est pour le Seigneur. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui va agir dans le corps, mais il y a aussi la volonté de l'homme qui va agir ensemble pour la victoire. La Bible déclare que le Saint-Esprit t'aide dans ta faiblesse. Ça veut dire qu'en fait, il y a une part de toi et il y a une part de Dieu. Dans la guerre contre la chair, il y a une part de toi et une part de Dieu. Une part d'autodiscipline, le Saint-Esprit vient t'aider afin que cette part d'autodiscipline triomphe contre la chair. Mais si tu te dis, « Oh Seigneur, aide-moi, c'est trop dur, oh la chair, non, ça n'a pas marché, tu vas toujours tomber et retomber. » C'est pourquoi Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut t'aider, mais la chair est faible. Tu dois aussi agir. Tu dois aussi te lever. Tu dois aussi prendre des décisions. Tu dois aussi t'organiser. Tu dois aussi te discipliner. Afin que l'œuvre de l'esprit fonctionne et porte du fruit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Rejeté par qui? Rejeté par Dieu. Il a peur que Dieu le rejette. Il dit, apôtre Paul, c'est bien, tu as fait des miracles, tu as créé des églises, mais toi, qu'as-tu fait de ton corps? Paul, il dit, j'ai peur d'être rejeté par Dieu. Alors je tiens mon corps assujetti. Je refuse que mon corps m'emmène faire des choses que je ne veux pas faire. Je refuse que mes pensées s'éloignent et s'écartent. Non, je me tiens assujetti, esclave. Mon corps ne doit pas m'amener à faire des choses que je sais ne pas être dans la volonté de Dieu. Il dit, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est comme moi ce matin, je vous prêche, mais Dieu peut me rejeter. Il me dit, Wilfried, c'est bien, tu as prêché, mais qu'as-tu fait de ton corps? Est-ce que la chair a gagné la bataille? T'as-t-elle tiré vers le bas? Ou bien tu as réussi, avec l'aide de mon esprit, à te tenir au-dessus, à résister et à avancer? Wilfried, qu'as-tu fait? Et je répondrai, Seigneur, j'ai fait mes efforts. Il me dira, oui, j'ai vu. Il me dira, rentre dans le repos de ton Père. Parce que j'aurais fait des efforts. Peut-être que des fois je serais tombé. Peut-être que des fois je n'aurais pas réussi. Mais comme il aurait vu ma bonne volonté, il aurait vu mes sacrifices, il aurait vu mes cris, mes pleurs, mais en même temps, il aurait vu les efforts que j'aurais faits. Me faire une discipline. Même si hier ça n'a pas marché, je dis, Seigneur, demain ça a peut-être marché. Je me suis mis une autodiscipline, je tiens 2, 3, 4 jours, après je retombe, je me relève. Seigneur, je n'ai pas réussi à tenir 5 jours, il faut que je tienne. Et je recommence mon autodiscipline. Il faut que j'y arrive. Et Dieu un jour verra tous mes efforts. Il dira, j'ai vu tes efforts. Rentre dans le repos de ton Père. Mais si je ne sais pas, si j'écris seulement, si la nuit je prie seulement, Seigneur, aide-moi, aide-moi, va me dire, je te donne le pouvoir et l'autorité. Saisis ton autorité. Rapidement, on va passer au monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais c'est dur cette phrase. Si quelqu'un aime le monde, ah, vraiment, j'aime les belles maisons, les belles voitures, j'en veux. Et on passe sa journée à chercher ça. On n'y prie plus. On peut user du monde, la Bible le dit. User du monde. Mais vous ne soyez pas esclaves du monde. Mais on peut user du monde. La preuve, on dort dans des maisons, on roule dans des voitures, on use du monde. Mais on n'est pas esclave du monde. On ne vit pas pour ces choses. Si on me les enlevait, je ne régnerais pas mon Dieu pour ça. Ou si je ne les obtenais pas, je ne régnerais pas mon Dieu pour ça. Mais si mon Dieu m'en fait grâce, gloire à Dieu. Et si je n'en ai pas, gloire à Dieu. Je suis en costume devant vous, je n'ai pas porté de costume toute ma vie. Je n'en avais pas aussi à un moment donné. J'en cherchais, je n'en trouvais pas. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas été fidèle dans la maison de Dieu. Ceux qui me connaissent, je suis chrétien depuis longtemps. Je suis responsable depuis des années. Mais je n'ai pas toujours eu un boulot qui me permettait d'acheter des costumes. Mais j'ai été fidèle dans la maison de Dieu, fidèle. Pourquoi? Parce que je ne regardais pas aux choses de ce monde. J'en avais besoin, mais ce n'était pas ma priorité. Je courais le dimanche pour venir à l'église. À un moment donné, je travaillais à un endroit où je bossais toute la nuit. Je bossais de 21h à 6h, 7h du matin, ça dépendait des week-ends. Toute la nuit, je travaillais. Dimanche, j'étais à l'église. parce que je savais qu'il y avait une bataille et que mon âme était réclamée. Il fallait que je tienne. Je ne pouvais tenir qu'en m'abreuvant de la parole, qu'en écoutant la parole, en chantant les louanges de Dieu, en créant autour de moi une atmosphère spirituelle. C'est ce qui allait me garder. Alors je courais toujours dans la maison de Dieu. Et je faisais mon effort de ne pas être en retard à l'église. Ah, je vous le dis, ma femme est là. J'étais étudiant. On se connaît depuis qu'on est étudiant. On s'est mariés, on était étudiant. Je courais. Je prenais le bus. Le bus est passé. Je vois l'heure. Je cours. Je n'avais pas 16 ans, même à 25 ans. Je courais, je transpirais parce que je ne voulais pas arriver en retard à la maison de Dieu. Si le culte devait démarrer à 10h30, je devais être là avant 10h30. Cette habitude, je l'ai cultivée et je l'ai encore aujourd'hui. Parce que j'ai réussi à la cultiver quand j'étais étudiant. Quelles que soient les époques de ma vie, célibataire, marié, un enfant, deux enfants, trois enfants, toujours Dieu en premier. Ce n'est pas parce que j'ai trois enfants que maintenant je peux venir à l'église à 10h40. Non. Si je dois me réveiller à 5h, je me réveille à 5h. Parce que je dois m'organiser pour ne pas être en retard dans la maison de Dieu. Quand j'étais jeune, mon pasteur me disait toujours, Wilfried, Dieu te précède à l'église. Il t'attend devant la porte. Quand tu es en retard, il regarde l'heure. Il sait à quelle heure tu es arrivé. Et c'est resté dans ma tête. Je ne peux pas arriver, mon Dieu m'attend. Il me dit que tu étais où, tu faisais quoi? Seigneur, je faisais un petit brushing. Ah bon? Je me suis organisé et gloire à Dieu, c'est une habitude que j'ai prise. Donc même quand je suis en retard, je cours. Même encore aujourd'hui, hein, je vous dis. Quand les enfants sont en retard à la maison, on les presse. Allez, allez, allez! Parce qu'on ne doit pas être en retard à l'église. Continuons, je termine bientôt. Alors, on était où? On était à Romains. Est-ce qu'on peut lire Romains 12, 2? Ne vous conformez pas au siècle présent, vous connaissez pas ça, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent, c'est quoi? On est maintenant sur les réseaux sociaux, on passe du temps dessus, la parole a perdu sa force. On s'est conformé au siècle présent. Le temps qu'on passait devant le Seigneur dans la louange et l'adoration a diminué parce que les vidéos, on a tous quelque chose à faire dans la vie. Mais c'est un choix de prendre le temps devant le Seigneur. On a tous 24 heures. Ceux qui ont réussi à passer 2 heures devant Dieu n'avaient pas plus que moi ou moins que moi. On avait les mêmes temps. Mais il s'est organisé pour passer du temps devant Dieu. Organise-toi aussi. Prends du temps devant le roi des rois. Il a quelque chose à te dire. Il veut discuter avec toi, c'est ton père. Il a besoin d'échanger. Peut-être qu'il a des projets pour toi. Peut-être qu'il veut te donner une solution. Mais tu n'as pas le temps. Quand va-t-il te parler? Quand va-t-il te donner une solution? N'attends pas que l'homme de Dieu ouvre sa bouche pour te donner une prophétie. La prophétie par excellence, celle que Dieu te donne quand tu médites sa parole. Ou la nuit, quand tu dors, et que Dieu te visite par un songe. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Lui déclare, mais personne n'y prend garde. Pendant que nous parlons là, Dieu est là. Il nous parle. Moi qui suis devant vous, il y a des choses, je dis, ah Seigneur, tu m'avais dit ça. Dieu m'a dit des choses 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai fait, après j'ai abandonné. J'ai fait, après par les choses de la vie, j'ai oublié. Et Dieu me rappelle, parce qu'il est bon. À chaque fois, il me redit, je t'avais dit de faire ça, les frères. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Je vais faire. Et puis parfois, je fais. Ou parfois, la vie fait que j'oublie encore de faire. Et Dieu me rappelle en sa bonté. Ça fait 3 fois que je t'ai dit, je t'ai dit de faire ça. Oui. Même dans l'église, je vous dis, chose que Dieu me dit, j'ai dit de faire ça à l'église, tu n'as pas encore fait. Je dis, ah, c'est vrai, Seigneur. Allez, deux derniers versets. On va passer au diable. 1 Pierre 5,8. 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire. Oui, on ne parle pas de votre ami. Ce n'est pas un copain. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais vous voyez, on n'emploie pas n'importe quel mot ici. Dévorer, ça veut dire qu'il a hâte d'en finir avec toi. Mais toi, tu penses que... Non! Le diable est sérieux. Il sait ce qu'il cherche dans ta vie. Ce n'est pas un enfant. Dans le jardin d'Éden, il savait ce qu'il cherchait. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu. Continuons. Donc il dit, oui, chaque pied dévorera. Après, la suite dit, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Vous voyez les mots qu'on utilise ici? Imposées. Ce n'est pas que tu peux t'échapper des ruses du diable. Non, tu ne peux pas t'échapper des ruses du diable. Tu ne peux pas t'échapper de la tentation du diable. Tu ne peux pas t'échapper de la guerre. La guerre est là, elle est réelle. On t'impose une guerre dans laquelle tu dois combattre. Et cette guerre est imposée aussi à tes frères. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul dans le combat. Moi aussi, je suis dedans. C'est pour ça que mercredi, on vient ici à l'église. On vient faire quoi? On vient prier ensemble. Si tu as le temps, viens. On prie ensemble. Korababa, Seigneur, combat. Le frère est malade, on combat. Le frère a un projet, on combat. Parce qu'on sait qui est derrière. Il y a quelqu'un derrière. Il y a ton frère, il y a quelqu'un derrière. Dis à ton frère, il y a quelqu'un derrière. Dis-lui encore, il y a quelqu'un derrière. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je finis avec un dernier verset. 1 Corinthiens 9:23. 1 Corinthiens 9:23. On peut lire ensemble, s'il vous plaît? Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. L'apôtre Paul disait tout à l'heure, je ne veux pas être rejeté. Je veux avoir part à l'évangile. Contre la chair, contre le monde, contre le diable, je fais tout à cause de l'évangile. Parce que l'évangile est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je fais tout pour y avoir part. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît, fermer nos yeux? On a pu parler, Dieu t'a parlé, j'en suis persuadé, je n'ai même aucun doute. Est-ce que tu peux prier, parler à ton Dieu, tout simplement? Je n'ai pas de requête de prière pour toi, parce que le Seigneur t'a déjà suscité de penser dans ton esprit. Alors prie simplement par rapport à ce que Dieu t'a dit pendant que je parlais. Pendant que le Seigneur t'instruisait par ma bouche. Maintenant c'est le temps, prends ces 2-3 minutes pour parler à ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Si tu dois dire pardon au Seigneur, tu dis pardon à Dieu. Si tu dois dire Seigneur, je veux vraiment que tu me guéris encore, que tu me donnes encore l'esprit de discernement. Demande-lui un esprit de discernement. Si tu as besoin de la sagesse, demande à Dieu qui donne tout et simplement et sans reproche. Si tu as besoin encore de la force, demande à Dieu. Si tu as besoin encore de la bonne volonté, demande à Dieu qui donne tout.